Père, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur, qu'on s'approche de toi. C'est dans ses mérites qu'on peut te prier, Seigneur, parce que nous-mêmes, on est indignes. Puis je te demande, Seigneur, de parler à nos cœurs par ta parole, de te révéler, Seigneur. On veut grandir, on veut s'équiper, Seigneur, on veut maturir, on veut devenir efficace dans ton œuvre. Je te demande de nous former, puis de nous donner une vision claire de ton plan que tu as pour chacun de nous, puis qu'on puisse faire ce que tu nous demandes. On remet nos ventres à tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Pour Daniel, tu vas apporter la parole, Seigneur. Je te demande de te toucher, Seigneur. Tu donnes les bonnes paroles aux brebis, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Amen.
On est en train de commencer une étude depuis plusieurs mois. Puis ça va être comme le dernier message de cette série-là. Mais il va en avoir d'autres éventuellement. Mais c'est pour dire que je voulais faire une série parce que Dieu m'inspirait à cela. C'est sur le combat spirituel. Puis pendant toute la série, j'ai parlé qu'on était plus que vainqueurs parce que Jésus a tout accompli, puis ainsi de suite. Puis après ça, j'ai expliqué que le combat spirituel commence premièrement à combattre pour nous-mêmes, à se défendre contre les attaques. Quand on parle de combat spirituel, souvent, moi, dans les autres églises, avant, on pensait juste aller chasser les esprits qui étaient des autres personnes, mais on combattait pas. On n'entendait pas de prédication qui nous dit à nous autres de combattre contre les esprits, parce qu'on est attaqué tous les jours. Le diable, ses esprits, essaient d'avoir accès dans nos vies, puis il y a des tentations qui mettent devant nous pour qu'on tombe dans le péché, puis que là, il y aura accès dans nos vies à venir dans nos pensées, à nous injecter des choses, à nous en mettre dans la parole des paroles qui viennent de lui, puis d'agir à travers de nous, même si on est chrétien. On doit résister au diable, le combattre. On est plus que vainqueur, oui, mais il faut combattre. Parce que si on ne combat pas, l'ennemi va être dessus sur nous autres, va être contrôle sur nous autres, puis il va nous manipuler, puis il va nous faire des choses qu'on ne veut pas, puis on va détruire l'œuvre de Dieu. Puis là, l'œuvre de Dieu recule parce qu'on n'est pas en train de faire l'œuvre de conquérir, puis d'avancer. On recule, puis on détruit les frères et sœurs par nos paroles, puis nos agissements, parce qu'on se laisse manipuler par l'ennemi. Puis on s'empoisonne les uns les autres en se lançant des mauvaises paroles. Puis là, le peuple de Dieu se lamente, puis marche languissant, parce que on laisse faire l'ennemi dans nos vies. Mais aujourd'hui, c'est le 16e message de cette série-là. On va apprendre dans certains passages du Nouveau Testament comment combattre pour les autres. Parce que là, j'ai expliqué pas mal sur quoi qu'on devait voir clair, autrement dit, voir les esprits qui nous attaquent. J'en ai expliqué quelques-uns. J'ai pas tout couvert tout ce qui pouvait être dit sur ce sujet-là, mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Mais quand même, le Seigneur va permettre qu'on revienne sur ces sujets-là. Là, je vous pose une question. Combien de fois que vous avez vu des gens possédés par un démon?
Pas beaucoup.
Ça arrive pas beaucoup qu'on les voit de nos yeux. Pourtant, on le sait que le diable agit contre nous tous les jours, à essayer de nous mettre des idées dans la tête, d'essayer de venir nous faire tomber dans des péchés. Mais de le voir dans les autres, ça n'arrive pas souvent, puis ça peut arriver seulement que c'est le discernement des esprits, que tu vas voir les choses, tu vas voir pas juste la chair et le sang qu'on n'a pas à combattre contre les humains, mais on va voir les esprits qui agissent dans les gens quand ils nous disent des paroles méchantes. Tu es au travail, tu entends une parole, tu peux discerner qu'il y a un esprit qui est en arrière de la personne pour essayer de te picocher, pour essayer de te faire tomber dans un péché de critique ou un péché de jugement ou un péché de te revenger. Puis de, tu sais, il y a toutes sortes de situations que l'ennemi veut utiliser, qu'il peut utiliser, mais qu'il ne gagnera pas. Pourquoi il ne gagnera pas? Parce qu'on est déjà plus que vainqueur, on l'a chanté tantôt, Jésus a tout accompli pour qu'on soit dans la victoire. Mais il faut saisir cette victoire, apprendre le combat. Mais comment puis-je arriver pour combattre pour les autres? C'est important. Autant que j'ai à combattre pour moi, si je veux aider quelqu'un à s'en sortir, il faut que je sache comment ça marche. Jésus a dit une fois, je l'ai dit dans l'étude, mais je vous le répète aujourd'hui, pourquoi tu dis à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil quand tu ne vois pas que tu as une poutre dans le tien? Jésus dit, ôte premièrement ta poutre, puis là tu verras comment enlever la paille dans l'autre. C'est ça qui est le point. Il faut apprendre le combat spirituel dans nos vies. Quand on a compris comment ça marche, parce qu'on se dégage des liens du diable, puis on a des victoires, là, on va être en mesure d'aider l'autre qui a une poussière dans son œil. Tu peux l'aider parce que tu as compris comment que ça marche. Puis ça s'apprend. C'est pas quelque chose que tu fais n'importe comment. Il y a des versets qui nous parlent de cela, puis c'est là-dessus qu'il faut regarder ce matin. Jésus nous l'a donné le mandat. Puis quand je dis le mot mandat, peut-être ça ne dit pas en grand-chose, mais un ordre, ça nous dit-tu quelque chose, hein? Si c'est un ordre, Jésus nous a donné un ordre à ses disciples. Quand il a pris les 12 apôtres, là, il leur a donné un ordre. Il dit, dans Matthieu 10, le verset 7 et 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'ordre, on va s'attarder aujourd'hui à une partie de cet ordre-là. Chassez les démons. Les disciples, les 12 apôtres, avaient comme ordre d'aller de l'avant, répandre la bonne nouvelle, puis de chasser les démons. J'ai posé la question, combien de fois vous l'avez vu, Satan, dans la vie des autres? Puis, on n'a pas l'impression qu'on le voit souvent. Pourtant, le monde entier est sous la puissance du malin. Il agit, il contrôle, il manipule, il parle dans les pensées de l'ensemble de l'humanité, mais on ne le voit pas. C'est là qu'est un problème, frères et sœurs. Faut apprendre à le discerner. Parce que ça fait partie de notre mandat de répandre l'Évangile, mais aussi de prier pour les malades, puis de chercher à soulager les gens. Parce que Jésus, il est envoyé pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Puis il a envoyé ses disciples aussi pour délivrer ceux qui sont sous l'oppression du diable. Puis on peut réussir à les délivrer parce que Dieu est avec nous, comme Jésus le faisait parce que Dieu est avec lui. C'est notre mandat. C'est pas juste à ça qu'on est appelé, mais ça fait partie de la tâche d'un chrétien de commencer à prier, à délivrer les gens. Mais il faut comprendre comment ça marche. Les 70 disciples, c'était la même chose. Il y avait 70 évangélistes que Jésus a envoyés. Je l'ai lu un matin comme introduction, ce passage-là. Mais là, je vous lis la suite. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » C'est extraordinaire, parce que c'est à point que les 12 apôtres qui ont vécu ça, de chasser des esprits. Les 70 aussi ont osé invoquer le nom de Jésus sur des gens, puis ils étaient délivrés des démons, les démons se soumettent au nom de Jésus. Puis Jésus, si on aurait lu l'autre passage, il dit « Je voyais Satan tomber du ciel. » À chaque fois qu'un disciple du Seigneur invoque le nom de Jésus sur quelqu'un, les démons prennent une débarque. Ils débarquent tous, ils tombent en bas du ciel comme un éclair. Ça ébranle le royaume des ténèbres quand on invoque le nom de Jésus. La puissance des ténèbres tremble, est terrifiée, est ébranlée, puis elle s'écroule. Puis toutes les constructions que les esprits essayent de faire sur les gens, mais ça s'écroule. Parce que on marche dans le nom qui est l'autorité suprême, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit dans ce nom. Pas juste les chrétiens, on le fait volontairement de fléchir. Le ciel en entier fléchit. Quand Jésus passait, les démons se prosternaient devant lui. Ils pliaient le genou. C'est pas la personne qui priait le genou, c'est les démons qui étaient dans la personne, qui étaient à genoux. Ils ont la peur, ils ont la crainte de Dieu. Comme un autre passage qui nous dit dans Jacques, il dit, vous avez la foi, tout ça, mais les démons aussi ont la foi que Dieu existe, mais ils tremblent. Ils sont sur le gros nerf quand ils disent « J'espère, les démons, ils regardent les chrétiens, j'espère qu'il n'osera pas invoquer le nom de celui qui nous dérange, parce que ça dérange quand on invoque le nom de Jésus. » Les esprits tremblent dans ce nom-là. Puis ils partent en courant, puis ils sauvent. Puis ils prennent une débarque du ciel quand ils l'entendent. Ça défait l'œuvre de l'ennemi quand le peuple de Dieu prend l'autorité. Les 70 sont revenus avec joie. Alléluia, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus lui a dit, réjouissez-vous pas de cela. Réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Il est en train de dire aux 70, vous êtes tous des sauvés par la foi, là, présentement. Votre nom est inscrit dans le ciel. Puis vous êtes capable, à cause de votre nom est inscrit là, d'être capable de chasser les démons. Puis même Jésus, si on continue dans la suite, il avait fait une promesse, juste avant de quitter, une promesse qui est encore valable aujourd'hui. Dans Marc 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Ça, c'est dans le nom de Jésus, ça. « Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Puis là, si on continue, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est l'autorité du nom de Jésus. C'est pas nous qui guérit, c'est le nom de Jésus qui guérit. C'est dans la foi en son nom qu'on va voir des guérisons. C'est dans la foi en son nom que les démons partent. Mais ça, c'est une promesse qui est encore bonne pour aujourd'hui. Jésus a envoyé ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêchez à toute créature, à toute la création. Puis, prenez l'autorité de mon nom, invoquez mon nom sur les gens, vous allez voir des choses changer. Là, on va rentrer un peu dans le corps du sujet. Lorsqu'il y a une présence démoniaque qui se manifeste dans une personne et qu'elle n'est plus en contrôle de ses sens, comme qu'on a vu des passages, on va en lire un dans Marc 9, 18. Nous devons intervenir dans l'autorité du nom de Jésus. Il y en a un exemple de ça, là. Il y a une personne qui arrive auprès des disciples, puis il demande aux disciples de délivrer son enfant qui était aux prises d'un esprit mauvais. Ils ont été voir les disciples, mais les disciples n'ont pas été capables. Là, ils ont posé la question à Jésus. Mais quand la manifestation de ce démon-là se faisait, il en donne une description dans ce verset-là. Ça dit que l'esprit, il y avait des moments où il saisissait cette personne. Il dit en quelques lieux qu'il le saisisse. La personne avait des moments bien normaux, dans une vie normale, mais il y a des moments que l'esprit la saisissait. Là, il est acheté par terre. Là, il écumait, l'écumait, c'est de la broue qui sortait de la bouche, il grinçait des dents, il devient tout raide. Les manifestations, là, il y en a de tous les genres, puis il y a d'autres mandats, j'aurais pu sortir d'autres passages qui démontrent que quand l'esprit était dans la personne, il pouvait même parler. Parce que vous souvenez de l'exemple du démoniaque, celui qui avait 2000 démons en lui, il vivait dans les sépulcres, dans les tombeaux, là, pendant les cimetières, il était rejeté de la société, puis il était lui-même pas intéressé de vivre en société. Il était tellement troublé à l'intérieur de lui par tous ces esprits-là qu'il troublait, qu'il pouvait pas vivre une vie normale. Il était troublé, puis il sortait, puis il fuyait la communauté, la ville où il vivait. Il vivait dans les cimetières. Puis là, il prenait des roches, puis il se meurtrissait. Mais c'est pas le gars qui se meurtrissait, c'est l'esprit qui faisait de l'automutilation. Il y en a qui font ça, de l'automutilation. Ils prennent des couteaux, puis ils se coupent, ou ils prennent des roches, puis ils se frappent. La personne est tellement comme hors de contrôle d'elle-même qu'elle essaye de se suicider, qu'elle essaye de se tuer, qu'elle essaye de se faire du mal. Mais c'est pas elle qui fait ça, c'est le démon qui la saisit. Puis là, la personne crie, puis il n'y a personne qui pouvait maîtriser cette personne-là. Je peux peut-être y donner des médicaments là, pour la tenir bien down, là, mais c'est pas ça. Ça, ça sera juste soulager, ça ne délivre pas. Pour être délivré, dans ces cas-là, ça prend l'autorité du nom de Jésus, puis certaines petites choses qu'on va voir dans les versets qu'on va voir. Fait que, quand on est comme j'ai posé la question, combien de fois ça vous est arrivé de voir ça? Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises que des gens sont venus me voir pour me demander des délivrances de possession comme ça. Quelques fois, si tu peux compter, c'est tes mains. Mais des attaques comme des troubles, des choses que la personne est encore consciente d'elle-même, mais elle se sent oppressée, elle se sent troublée, elle se sent affectée dans ses émotions, dans ses pensées, par une oppression, par des liens ou des chaînes, ça on en voit régulièrement. Mais une possession complète, c'est plutôt rare. Mais ça peut arriver qu'on en voit. Puis si on en voit, c'est notre devoir de prendre autorité puis d'invoquer le nom de Jésus. Parce que Jésus a envoyé les 12 pour le faire. Il a envoyé les 70 pour le faire. Puis il nous le dit que dans son nom, on chasserait les démons. Faut pas avoir peur de cela. Un démon peut pas rien nous faire. C'est notre job. C'est comme si on dit, est-ce qu'un vidangeur a peur de ramasser un sac de vidange? Je pense pas. Il est engagé pour ça. Il est en arrière du truck, puis il ramasse les sacs, c'est sa job. Est-ce qu'on doit avoir peur de chasser un esprit? Pas du tout. C'est notre rôle. Est-ce qu'un policier a peur d'arrêter des voleurs? Non. Mais des fois, il peut y aller à 2-3 polices s'il n'est pas assez en confiance par lui-même tout seul. Mais nous autres, c'est la même chose. On peut y aller 2-3 chrétiens prier ensemble pour une personne qui a besoin de délivrance. Mais faut pas avoir peur, c'est notre mission de libérer les captifs. L'onction du Seigneur est sur Jésus pour libérer les captifs, pour guérir. C'est notre mission, la même mission que Jésus. Maintenant, on va approfondir le sujet du combat spirituel pour les autres. Pour nous autres, on en a parlé, qu'est-ce qu'on devait faire, mais pour les autres. C'est arrivé à plusieurs reprises que Jésus a chassé des esprits. On le voit là, il a chassé le démon dans cet enfant-là, puis à plusieurs reprises que Jésus a chassé les esprits qui étaient autour de lui. L'esprit partait, mais la Bible ne nous dit pas que ces gens-là sont automatiquement sauvés. Être délivré d'un esprit, ou même être guéri par Jésus, ne veut pas dire que cette personne-là est sauvée, puis qu'elle a été née de nouveau, qu'elle a la vie éternelle. C'est deux choses complètement séparées. Jésus a guéri les 10 lépreux, n'est qu'un qui est revenu rendre la gloire à Dieu, puis il a dit les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Ça veut dire que Dieu guérissait tout le monde. Jésus guérissait tout le monde. Il faisait pas d'exception, il est-tu sauvé ou il est pas sauvé? Je devrais-tu parce qu'il est pas sauvé? Oui, on doit, même s'il est pas sauvé. Mais ça le sauve pas. Ça fait juste démontrer un signe que Dieu agit dans sa vie. Cette personne-là, ça va lui donner comme une confiance que Dieu l'aime. Puis que Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Mais si tu veux faire une œuvre complète, il faut que ça soit plus profond que ça. On va le voir dans la suite. Le fait de chasser, c'est seulement de gagner une bataille. Quand tu chasses un esprit dans la vie d'une personne qui n'est pas sauvée, tu gagnes une bataille, mais c'est pas nécessairement gagner la guerre sur dans sa vie. Parce que c'est sûr qu'une fois que tu es parti de là, cette personne-là va continuer sa vie. Puis, s'il recommence les mêmes choses qu'il était avant, c'est sûr que les esprits vont venir le tenter, ils vont vouloir agir dans sa vie encore. Puis ils vont reprendre la place qu'ils avaient. Puis Jésus nous a parlé de cela dans des passages qu'on va aller voir justement. Jésus n'a jamais dit qu'une délivrance était permanente. Quand une personne t'a délivré, là, on va lire un passage dans Matthieu 12, ça nous parle de ça. Il nous a même dit le contraire, que ça peut arriver, que même si tu as délivré là la personne, qu'elle peut se refaire liée par des esprits. Dans Matthieu 12, Jésus nous enseigne ça, au verset 43. Il y a trois versets. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, Il s'en va dans des lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve point. Alors, il dit, « Je retournerai dans la maison que je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, il s'y établit, puis la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous expliquer là-dedans? Il nous dit pas que quand tu délivres une personne, c'est une délivrance permanente. Il nous dit juste, tu t'as gagné une bataille, cet esprit-là va sortir. Le seul petit problème qu'on voit dans ce passage-là, c'est quand, avant de parler du problème, on parlait des effets bénéfiques. L'esprit est sorti, puis la maison est redevenue balayée et ornée. Vide, balayé, orné. Quand tu passes le balai, c'est comme il n'y a même plus rien qui traîne, il n'y a plus rien de désordre. Tout est ramassé, tout est revenu dans l'ordre. Puis orné, c'est qu'il y a même des décorations dormies dans la maison. Il y a une joie de vivre qui reprend quand que l'esprit sort d'une personne. La personne revient dans son bon sens. Elle est heureuse. Sauf dans ce passage-là, ça nous dit qu'elle est vide. C'est là qu'est le problème. Tu peux chasser un esprit, mais si tu ne le remplis pas, cette personne-là, de quelque chose qui est bien important qu'on va voir ensuite, la maison est vide, l'esprit, lui, un esprit, cherche toujours à se loger dans quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il se fait voir et qu'il se fait entendre. Il parle dans la pensée de cette personne-là, il donne des paroles dans la bouche de cette personne-là, puis il agit dans des agissements dans la vie de cette personne-là. Les esprits cherchent à être présents puis faire des choses dans cette vie, dans la vie terrestre. Ils cherchent à intervenir dans la vie terrestre, puis ils sont bien seulement quand ils sont là en train de faire quelque chose, sinon ils sont errants, puis ils n'ont pas de raison d'être, puis ils n'ont pas de paix dans cela. Puis là, les esprits cherchent à rôder ailleurs, mais ils se sentaient mieux quand ils étaient dans la présence, dans la personne d'où ils sont sortis. Puis ça nous dit dans le verset qu'il va se dire, « Retournons ce qu'on était. Je retourne où ce que j'étais. » Chaque esprit qui sort va chercher à revenir. C'est arrivé à Jésus lui-même. Quand Jésus a été tenté par le diable lui-même trois fois, il a essayé de faire tomber Jésus dans le péché, Jésus l'a chassé, il a dit « Retire-toi, Satan ». La troisième fois, il a dit de s'en aller. Puis là, ça dit « Et le diable le laissa jusqu'à un moment favorable ». Le diable a essayé de revenir. S'il a fait ça à Jésus, pensez-vous pas qu'il va le faire à quelqu'un qui n'est même pas sauvé, puis qui est encore dans le royaume des ténèbres? La Bible nous le dit. Le monde entier sous la puissance du malin. Fait que même si tu chasses un esprit, cette personne-là est encore dans le royaume des ténèbres, c'est sûr que l'esprit va essayer de revenir. La personne est encore sous la domination du diable, même si momentanément l'esprit a été chassé. C'est pas une délivrance permanente. Là, cet esprit-là, Jésus dit, il va en chercher d'autres. Il dit, hey, en parlant à ses chums esprits, mauvais esprits, démons, hey, j'ai une place qu'on peut retourner toute la gang ensemble, vous allez être bien, vous autres aussi. Ils reviennent dans cette maison-là, vu qu'elle est vide, ils s'y installent. Puis là, il dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il a été délivré. Il était mal, il a été délivré, mais si les mauvais esprits se réinstallent, c'est encore pire qu'avant. Puis là, Jésus lui dit, ça va être la même chose pour cette génération perverse. Pourquoi que Jésus disait ça? Parce que Jésus est en train de proclamer aux Juifs que Jésus était le Messie, puis qu'il était venu pour lui donner la parole qui les sauve. Puis là, il a délivré les démons qui agissaient dans tous les Juifs qui l'entouraient. Il en a délivré des centaines puis des centaines, puis ils n'ont pas reçu le témoignage de Jésus. Ils n'ont pas accepté comme étant le Messie. Fait qu'est-ce que ça a fait? Ils sont tous restés dans les ténèbres, ces gens-là. Puis il dit que les esprits méchants qui ont été chassés, ils vont tous revenir dans les Juifs qui étaient là autour de Jésus. Puis que la dernière condition de cette nation sera pire qu'avant que Jésus passe. Ils l'ont crucifié. Là, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était rien qu'une suite de malheurs dans la suite des temps pour le peuple juif. Ça l'est encore 2000 ans plus tard. Et s'ils ne se repentent pas pour revenir à reconnaître celui qu'ils ont percé, puis à reconnaître que c'est lui le Messie, ils sont perdus. Mais la Bible nous dit, gloire à Dieu, que dans les derniers temps, ils vont avoir un réveil des Juifs qui vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Puis il va en avoir une multitude qu'on ne sait pas, mais la Bible nous parle des 144 000, qui ça dénote une multitude de Juifs qui vont se convertir à la fin des temps, puis qui vont servir Dieu à travers le Fils. Puis dans l'Ancien, ça le dit qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Tout ça va se produire avant le retour de Jésus-Christ, et c'est déjà commencé parce qu'il y a des Juifs qui croient en Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit à quelqu'un qui avait été guéri? Dans Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva et lui dit, ça c'est quelqu'un qui avait été guéri, « Voici, tu as été guéri, mais ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Ça, ça confirme que ce que je suis en train de vous dire, que ce soit une guérison physique que la personne reçoit du Seigneur, mais pas sauvée, puis elle marche dans ses idées, puis elle recommence comme qu'elle était avant dans ses péchés, à ne pas avoir des choses pires dans sa vie. Comme que tu peux être délivré d'un esprit, puis si tu ne te repens pas, puis ta maison est vide, ils vont revenir, puis ta condition va être pire. Ce qu'on remarque là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Quand tu arrives à délivrer une personne, là, par la puissance du nom de Jésus, là, c'est pas toi qui as des livres, mais c'est l'autorité du nom qui a des livres. Faut que tu amènes la personne à prendre position pour Dieu. Puis on va le voir dans d'autres versets. Sinon, la maison est vide, puis c'est sûr que tu es encore dans le règne des ténèbres. Parce que quand tu acceptes Jésus, que tu es transporté des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. C'est quand tu acceptes Jésus, mais tant que c'est pas fait, la personne est encore les deux pieds dedans, puis c'est sûr qu'il va encore sur son chemin des péchés, qu'il va la refaire, qu'elle va être encore pris avec d'autres problèmes. Je dis pas que toutes les maladies sur la terre sont dues par des esprits ou que c'est des conséquences du péché. Il y a aussi des maladies qui sont dues aux conséquences naturelles. On vit, il y a des maladies qui viennent de microbes, puis Dieu a créé les microbes. La même chose qu'a créé les animaux. C'était là, ça. Sauf qu'on n'a pas accès à l'arbre de vie pour être guéri de nos maladies. Mais c'était normal que des conséquences naturelles pouvaient faire qu'on est malade. Mais si c'était dû à cause d'un péché, puis si ça se reproduit encore, ces péchés-là, ils redonnent accès au diable, puis le diable va agir dans leur vie autant qu'il peut agir dans la vie d'un chrétien à cause du péché. Quel genre d'intervention voulons-nous faire sur les autres? Une délivrance partielle ou une délivrance complète? Parce que quand tu veux commencer à prier pour les autres, il faut que tu sois prêt à aller jusqu'au bout pour que la personne arrive à être complètement délivrée, puis qu'elle soit complètement dans les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas suffisant de partir à la chasse aux mauvais esprits. Il faut que tu amènes, il faut que tu conduis cette personne-là à accepter Jésus, puis là qu'elle commence à marcher avec Jésus, puis là elle va recevoir les délivrances complètes, puis permanentes qui viennent du Seigneur, parce qu'elle a changé de camp. Tant que c'est pas encore fait, puis si tu fais juste chasser un esprit, c'est juste une délivrance partielle. Si tu veux aller jusqu'au bout, dans le ministère de délivrance, il faut que tu sois prêt à aller jusqu'au bout pour faire ce que tu as à faire, pour que les gens soient entièrement délivrés, puis qu'ils aillent puiser dans la nouvelle naissance, puis dans toutes les armes, puis la puissance de Dieu que Dieu nous a donné à notre disposition. Il faut qu'ils aillent puiser pour réussir à être fortifié par l'Esprit de Dieu, puis prendre toutes les armes de Dieu pour qu'elle-même puisse apprendre à combattre pour sa vie. C'est ça, une délivrance permanente. C'est à cela qu'on est appelé à aller jusqu'au bout. Quand que Jésus a dit, voici les miracles qui chasseront les démons, mon nom, il a aussi dit les versets avant, en même temps, là. Que tu lis Matthieu, que tu lis Marc ou Luc, c'était juste avant qu'il monte dans l'ascension, il a dit, faites des disciples, puis enseignez-leur à observer. Ça veut dire, je vous envoie dans l'autorité, en mon nom, ils vont chasser les démons. Il a dit ça dans le même temps qu'il a dit aussi, je vous envoie, faites de toutes les nations des disciples, puis enseignez-leur. Le mandat de faire un disciple, enseigner la parole de Dieu, puis de prier pour qu'il soit guéri, délivré, c'est dans le même mandat. On va pas dans le monde juste pour chasser les esprits, on va dans le monde pour faire des disciples. On veut faire des disciples. On veut que les gens découvrent Jésus, découvrent ses promesses, les gens soient sauvés, les gens soient changés de camp par l'Esprit de Dieu, qu'ils naissent de nouveau, puis que la nouvelle vie commence, puis la puissance de Dieu commence à les équiper avec les enseignements pour qu'ils deviennent des disciples, puis qu'ils puissent à leur tour être capables de continuer à travailler sur leur personne pour combattre spirituellement dans leur vie, mais aussi pour être capables d'amener d'autres personnes à devenir des disciples. Puis c'est ça qu'on est appelé. C'est pas juste chasser à l'aveuglette. Déjà, Dieu nous a équipé ses enfants pour le combat spirituel. On a déjà tout ce qu'il faut pour faire ce que Dieu nous demande. Il nous manque rien. Tout est là. On a le Saint-Esprit, on peut invoquer le nom de Jésus, on peut invoquer le sang de Jésus, on a les promesses de la parole de Dieu, on marche en communion avec l'Esprit de Dieu, puis il nous guide, puis il nous donne à cœur des choses. On est déjà là, en train, prêts à faire des disciples, puis à délivrer ces gens-là. Mais c'est arrivé que ça marche pas. Puis j'en ai parlé dans mon dernier message que j'ai emmené ici. Pourquoi que ça peut arriver qu'une fois que tu as tout ce qu'il faut, que la personne n'est pas encore délivrée? Parce que ça prend quelque chose de plus dans les croyants, les enfants de Dieu qui veulent travailler dans le ministère. Ça prend quoi de plus qu'a été enseigné la dernière fois? Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de mon message? Oui. Marcher par la foi. Puis quand tu as la foi, rien vous sera impossible, que ça dit. Tu vas être allé jusqu'au bout pour arriver à une délivrance dans la vie d'une personne. Dans Matthieu 17, le verset 19, les disciples avaient essayé de chasser un esprit. Alors les disciples s'approchèrent, puis ils n'avaient pas été capables de le chasser. Ils lui dirent en particulier, après que c'est tout passé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourtant, il avait toutes les armes et la puissance de Dieu, puis l'autorité avait été donnée. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Cette sorte de démon-là ne sort que par la prière et le jeûne. Ça veut dire qu'un disciple du Seigneur qui veut commencer à prier pour faire des disciples là, autour de lui, puis il veut commencer à prier pour délivrer les gens, puis d'en faire des disciples, il faut qu'il soit animé d'une foi. Il faut que toute incrédulité là, sorte de notre idée. On est appelé à ça. C'est notre job d'aller parler du Seigneur, puis de leur expliquer pour qu'ils soient sauvés, puis de les délivrer les gens en priant. Puis si l'esprit résiste, tu vas aller jusque dans la prière et dans le jeûne jusqu'à temps que cet esprit-là sorte. On est-tu prêt à aller jusqu'au bout pour délivrer les gens? À aller jusqu'à jeûner puis à prier si ça n'a pas sorti sur le coup. Puis il dit, rien ne vous serait impossible si on aura une foi comme ça. Tu diras même à une montagne, enlève-toi puis jette-toi dans la mer, puis la montagne, elle obéirait. Jésus l'a dit aussi, ce verset-là, aussi en parlant d'un figuier. Puis on pourrait dire un figuier, déracine-toi, jette-toi dans la mer, puis les arbres l'accompliraient. Le problème qu'on a, c'est que c'est un manque de foi, conviction. On doute, on est incrédule. On le sait qu'on a un job à faire, mais on le sait et on ne le sait pas. Parce que on branle dans le manche. On n'est pas des gens. On est des roseaux agités par les vents. C'est ça que Jacques nous dit. Il ne faut même pas s'imaginer qu'on va recevoir quelque chose du Seigneur quand on marche de même. Il faut marcher avec foi. C'est notre mandat. Nous avons offert ça. On ne gêne pas d'invoquer le nom de Jésus. C'est là que tu vas voir des miracles. Tu vas voir la puissance de Dieu, puis les esprits vont se sauver en courant. Mais les esprits, ils vouent qu'on a l'incrédulité. Ils font juste résister un peu, puis on baisse les bras. Il n'a pas sorti, puis on s'en retourne, puis on arrête ça là, puis la personne n'est pas délivrée. Des fois, c'est parce que ça ne nous tente pas de le faire. On ne veut pas faire un effort, puis les personnes sont encore prises avec les esprits. Pardonne-nous, Seigneur, de baisser les bras. C'est à cause de ça qu'on ne voit pas les signes, les prodiges, les miracles promis, qui sont promis jusqu'à son retour. C'est ce que ça dit de l'effusion du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, jusqu'à temps que Jésus revienne, ça dit dans ce passage-là, jusqu'à son retour qu'on va voir des miracles sur la terre, du sang, de vapeur, de fumée, la lune va chanter, tout ça. Mais tous les versets de puissance, des visions, des songes, les signes de la puissance de Dieu, ça va être pour ceux qui croient jusqu'à temps que Jésus revienne, puis c'est ce qu'on est, là, on est encore là aujourd'hui, puis on peut les vivre, en autant qu'on a cette assurance-là. Mais là, on va parler dans le prochain passage qu'on va voir, là, c'est lui qui est comme le nœud du message. Si on peut retenir ce passage-là, là, puis de le méditer, puis de comprendre comment ça marche, toute la délivrance complète, le procédé, la marche à suivre pour une délivrance complète d'une personne est écrit dans ce passage-là. Puis ça, là, c'est autant pour nous. Quand on va lire ces choses-là, c'est pour nous, pour être délivrés, pour arriver à bout de des choses qu'on a besoin d'être délivrés. Ça s'adresse à nous, puis ça, c'est la méthode à prendre aussi pour les autres. Le combat spirituel, là, hein, c'est comme une opération par un chirurgien. Il n'arrive pas là, non préparé, puis il se garoche dans la salle, puis ah ouais, il pogne les outils, il n'est pas lavé, puis il n'y a pas rien de prêt, puis le monde sont pas là autour, puis il commence à ouvrir. Quand on rouvre le corps, puis on y écartille ça n'importe comment, puis on va chercher les organes qu'on va enlever, puis on met un fil raboudiné à peu près, puis que là, il met une taille à peu près à l'artère, puis là, on s'en retourne, puis on le laisse à manger de même. C'est sûr que le gars va mourir. C'est sûr que la personne, sa table, va mourir. Ça ne meurt pas parce que la taille râpe lâche, elle va mourir parce que l'infection va pogner. Puis il y a toute une procédure qu'un chirurgien entreprend. Premièrement, de se purifier, de se désinfecter, de prendre, changer de vêtements, d'avoir des vêtements désinfectés. Puis là, il va avoir un masque d'en face pour pas qu'il y ait de microbes qui sortent de sa bouche. Il va avoir des gens autour de lui qui ont chacun leur job à faire. Tout ensemble, c'est une équipe. Puis là, il utilise des outils désinfectés. Puis ils ont une méthode de travail que quand il commence à l'opérer, il compte les outils qui ont été utilisés pour pas refermer le patient. Puis il en reste encore un outil dans le corps. Tout est calculé, là, du début jusqu'à la fin. Puis s'il y a une complication, mais il sait déjà quoi faire, qu'il faut qu'il injecte tel produit, qu'il va faire telle action au corps. Puis là, il y a toute une procédure, puis une manière à suivre pour arriver que la personne reçoive son opération complète, puis que tout ce qui avait été fait, du mieux qui avait été fait, là, a été fait, puis donner la meilleure chance à la personne de survivre, puis de passer à travers de cette maladie-là. C'est une procédure, un chirurgien. Il n'y a rien qui est à peu près. C'est la même chose pour la parole de Dieu si on veut travailler dans la délivrance, dans nos vies, puis dans la vie des gens. Il n'y a rien qui doit être fait à la légère, puis tout croche, puis n'importe comment, puis essayer 56 méthodes qui n'est même pas écrit dans la Bible. On va vous dire, là, j'en ai entendu des méthodes pour délivrer des gens. Oh, faut que tu invoques jusqu'à la 21e génération pour chier les esprits. Où est-ce que tu vois ça dans la Bible? Il n'y a aucun verset qui dit ça. Mais les gens, ils se forment tellement des affaires compliquées pour délivrer une personne que ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont toujours manqué une étape à quelque part. Au lieu de croire les versets tels qu'ils sont écrits, puis de prendre les méthodes que Paul utilisait, ou que Jésus utilisait, ou que les disciples utilisaient, puis d'y aller là, de A à Z avec les méthodes qui sont déjà écrites, on n'a pas besoin de n'inventer d'autres. Le passage qu'on va voir, c'est la clé pour comprendre comment délivrer en profondeur une personne. Puis ça délivre pas juste des esprits, ça délivre aussi des autres choses. 2 Timothée au chapitre 2. On va le lire au complet d'une traite, puis après ça, on va méditer chaque passage. Là, on parle au serviteur qui intervient pour faire une délivrance, là. La première partie, ça s'adresse au serviteur qui veut intervenir et faire une délivrance. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Au contraire, il doit avoir de la condescendance pour tous, de l'amabilité. Il doit être propre à enseigner, à expliquer, doué de patience, il faut qu'il soit excessivement patient. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Là, je l'ai lu d'une traite, je vais vous l'expliquer. Mais c'est pas moi qui l'explique, c'est Dieu qui l'explique. Parce que je vais vous dire franchement, là, ça, c'est des révélations de Dieu. Pour comprendre la pratique, ce qui doit être compris, là, c'est des révélations de Dieu. Là, ça veut dire que selon ce verset, là, comment qu'on peut concrètement combattre pour quelqu'un? Première chose, premier critère, c'est notre attitude et notre état personnel qui compte. Si t'arrives là, enragé, devant la personne qui a besoin d'aide, là, pis t'as pas de patience, pis tu expliques rien, bing bang, pis là tu chiales, pis tu critiques, pis t'arrives, pis là, pis là tu cries après pour chasser l'esprit, pis là tout est fait, tout croche, pis tu t'en vas, la personne n'a rien compris, ça l'a plus troublé que qu'est-ce que t'as pu y aider, l'onction de Dieu t'as pas là-dedans, pis la personne, là, même s'il y aurait une réaction, c'est sûr que l'esprit va revenir, puis il n'y a rien qui va changer pour une délivrance en profondeur. Vous allez comprendre pourquoi. La première partie, au verset 24 et 25, là, voici, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, redressé avec douceur. On va juste regarder un petit peu c'est quoi l'état intérieur qu'on doit avoir. Je vais le dire. Ça veut dire que quand un serviteur, là, il s'approche, là, pas de querelle. Faut pas que tu sois en chicane. Parce que t'es déjà dans le péché si t'es déjà dans la chicane. Comment est-ce que l'onction de Dieu peut être sur ta vie si t'es dans le péché? Non seulement, il ne faut pas qu'il y ait de chicane avec les autres qui t'accompagnent, puis avec ceux, surtout avec ta femme, là, souvent c'est plus avec notre femme qu'on chicane. Pas être en chicane avec personne. Il faut que tu sois un gars qui a fait la paix avec tout le monde pour pas donner l'occasion aux esprits d'agir dans notre vie, puis ça ne serait plus le Saint-Esprit qui agit, ça va être d'autres esprits. Puis la querelle, quand on est en querelle, pas en chicane, l'esprit, il y a des fois il y a de la colère, des fois il y a des mauvaises paroles qui sortent, puis ça vient pas du Saint-Esprit. Puis toutes les délivrances qu'on veut faire, on peut pas les faire, nous. C'est pas nous qui délivre. C'est l'Esprit de Dieu, quand il est en toi. L'Esprit de Dieu, en utilisant les versets proclamés de la parole de Dieu, ça a de la puissance. Mais si t'es pas rempli de l'Esprit, puis tu vis dans le péché, puis t'as attristé le Saint-Esprit, tu vas crier, tu vas dire des mauvaises paroles, tu vas dire des choses qui n'est même pas à propos, puis tu vas nuire plus à la délivrance que d'aider. Il faut arriver à être pas de querelle. Puis le condescendant, là, c'est aimable, puis compatissant. Faut que tu aies un esprit de compassion, de désir à vouloir aider cette personne-là. Si tu n'as pas cette idée-là, tu vas là dans l'idée, es-tu fatigante, elle me demande encore de prier, ça fait 3 fois que je prie pour elle, puis là on critique, puis on arrive là quasiment fâché. La condescendance, c'est d'y aller avec compassion, pas de querelle. T'arrives là avec douceur pour parler à la personne, puis tu vas être aimable, tu vas lui dire des belles paroles, pour que la personne qui vit la chose se sente en confiance. Elle vient te confier qu'elle a besoin d'une délivrance. Si t'arrives là, enragé, t'établiras pas de climat de confiance. Faut que tu sois capable d'expliquer, être capable d'enseigner, propre enseignement. Faut que tu sois capable d'expliquer qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Parce que la personne, là, elle vit des choses, là, elle a des, une pression, là, elle a des peurs, ou des cauchemars, ou elle a des visions dans sa chambre, elle voit les esprits y apparaître, puis y parler, ou elle voit sa grand-mère qui est décédée lui apparaître. Là, elle a besoin de délivrance, la personne, là, puis elle a des peurs, puis elle a des angoisses, puis elle a des tourments, puis elle est tourmentée, puis il y en a d'autres, j'ai vu, moi, c'était un esprit de serpent qu'elle sentait dans son ventre, comme un serpent qui se promenait dans son ventre. Fait que les gens, ils viennent à toi pour demander de l'aide. Ils veulent pas se faire recevoir avec une brique pain fanal, là. Ils veulent se faire recevoir avec amabilité, avec douceur, avec compassion, avec patience, puis que tu sois capable d'y expliquer. Bon, là, je vais t'expliquer des choses qui font partie de la parole de Dieu. Puis les choses que tu vis là, ça vient de l'ennemi, du diable, puis qu'il agit sur toi, puis t'a gardé captif de la peur, puis t'a amené à te rebeller contre Dieu, puis ainsi de suite. Tu peux y expliquer les affaires à la personne dans selon le sujet qu'elle vit, puis là, tu y expliques qu'est-ce qui se passe dans cette... Faut que tu sois doué de patience, puis être capable d'y expliquer. Pour que la personne réalise, elle sent confiance avec toi, elle ouvre son cœur, elle dit les vraies choses qu'elle pense, puis les choses qu'elle vit, puis là, elle te partage... Il y a un bon contact qui se passe avec toi, là. Oui, Dieu révèle. Puis là, ça dit dans le passage que quand t'es en train d'y expliquer, patiemment, tu y enseignes avec douceur, il y a une deuxième chose que tu dois avoir dans ta pensée, au verset 25, tu dois le redresser avec douceur dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Ça veut dire que tu es en train d'y parler, d'y expliquer doucement, d'échanger, d'y montrer qu'est-ce qui se passe, mais dans l'espérance, ça veut dire que tu es en prière dans ton cœur. Tu crois que t'espères, qu'intercèdes, tu voudrais que Dieu lui donne la repentance, parce que c'est le but, là. Parce qu'on le sait que tu ne changes pas de royaume tant que tu t'es pas repenti. Et elle va demeurer dans le royaume des ténèbres, la personne, tant qu'elle se repent pas. Ça veut dire, même si t'as dit, tu chasses l'esprit, puis tu t'en vas, ça c'est juste une job temporaire, partielle. L'esprit va revenir, il la saisit encore, elle va être encore pire qu'avant. Faut que t'arrives, établir un bon climat, jaser, y expliquer qu'est-ce qui se passe, puis t'espères, Seigneur, fais-y comprendre qu'est-ce que j'y explique. Faut qu'elle réalise qu'elle accepte Jésus comme son sauveur personnel pour être complètement délivrée, pour avoir une délivrance permanente. Faut qu'elle commence par prendre position devant Dieu face à être pardonnée de ses péchés. Puis si elle veut pas, tu pourras pas arriver encore à une délivrance complète. Ça va être encore juste de l'ouvrage superficiel. Faut que la personne vienne, mais le point que je vais emmener dans ce premier-là, c'est faut que tu aies de l'espérance que Dieu fasse une œuvre pendant que tu es en train de parler. Ça veut dire, quand Jésus dit, crois ce que tu dis, arrive. Il dit, ayez foi en Dieu. Faut que tu t'attendes que tu sais que Dieu travaille avec toi. Fait que si t'es en paix avec tout le monde autour, t'as pas été dans chicane, tout ça, t'es en la présence de Dieu. Dieu t'accompagne dans cette délivrance-là. C'est Dieu qui va faire la délivrance par le Saint-Esprit puis par la parole de Dieu. Là, t'arrives, t'as tout fait qu'est-ce que toi tu pouvais faire, sauf que tu continuais à t'attendre à ce que Dieu la touche. Qu'elle ait le cœur vivement touché, puis qu'elle réalise, hey, c'est vrai, je suis pécheur, puis c'est à cause de ça que les esprits agissent dans ma vie. Là, tu vas y expliquer, veux-tu faire la prière de repentance? Là, la personne va dire, oui, wow, là, c'est là que ça commence à faire de l'œuvre en profondeur. La personne va dire, oui, je l'accepte, Jésus. Fait qu'on va prier, Seigneur. Là, tu lui fais faire la prière de la repentance pour qu'elle se repente, qu'elle réalise, qu'elle confesse que Jésus est mort, pardonner ses péchés. Là, elle est en train de confesser ce qui va être la puissance qui va changer sa vie. Parce que la personne, quand elle va commencer à invoquer le nom de Jésus avec repentance, la vie de cette personne-là, il va être pardonné tous ses péchés, il va recevoir le Saint-Esprit, la nouvelle vie commence lorsque la repentance est là. Tant que la repentance n'est pas arrivée, il n'y a rien qui change. C'est tout superficiel. Mais quand la personne se repent puis que l'Esprit de Dieu entre dans sa vie, là, l'œuvre de la puissance, de la délivrance permanente commence. Puis là, le Saint-Esprit l'arrache des royaumes des ténèbres puis la transporte dans le royaume de la lumière. Est devenu un enfant de Dieu. Est devenu la propriété de Dieu, le sceau de Dieu. Il est marqué sur son front. Puis là, elle appartient à Dieu. L'ennemi n'a plus de droit légal d'agir dans sa vie. Elle naît de nouveau. Tous ses péchés sont pardonnés. Puis voici, toute chose est devenue nouvelle pour cette personne-là. L'œuvre de délivrance commence à partir du moment de la repentance, pas avant. La repentance est la clé pour saisir l'offre du salut. C'est qu'on dit qu'on est sauvé par la foi, oui. Parce qu'on apprend que c'est par la foi qu'on est sauvé. Mais c'est quoi la foi? C'est pas juste de le savoir que Jésus sauve. Les démons aussi, ils savent, puis ils tremblent. Ils savent que Jésus, c'est le sauveur. Mais la foi, c'est réellement le comprendre, mais aussi de faire le pas d'engagement. Tu commences par le confesser de ta bouche que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, puis c'est là que tu vas être sauvé. Puis cette confession de la bouche-là, c'est une prière d'engagement. Je crois que Jésus est mort, puis maintenant, Seigneur, je m'engage à te suivre, à te servir. Tout se joue là. C'est comme quand quelqu'un se marie avec quelqu'un, oui, je le veux, puis l'autre, oui, je le veux. L'union se fait là. Devant Dieu. Elle se fait pas avant, 3 mois avant l'engagement, puis elle se fait pas 6 mois après l'engagement. Ça se fait au moment de l'engagement. La confession de la bouche, c'est scellé, puis là, c'est là que ça commence. Puis là, Jésus vient, puis elle change de camp, puis là, c'est ôte-toi de là, Satan, elle m'appartient. Là, il y a des règles bien strictes qui sont dans la parole de Dieu, de ce qu'un chrétien, comment ce qu'il doit être, pour résister au diable, pour ne pas donner accès au diable, parce qu'on a le pouvoir, on a l'autorité qui nous est remise, celle qu'on a vue au début, les disciples, les 12 l'avaient, les 70 l'avaient, puis tous ceux qui auront cru en Jésus ont, parce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire tout disciple qui se convertit, il est rentré dans cette autorité-là. Sauf qu'il n'a pas encore compris, lui, tout ce qu'il a à sa disposition. Ils viennent de se convertir. C'est pour ça que ce verset-là, il est là, dans l'autre verset, tout de suite après. Il dit, on espère que Dieu l'amène à la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Fait que la personne, quand elle est là, puis elle commence à reconnaître Jésus, parce qu'elle a écouté doucement tes explications, puis là, elle a compris cette partie-là, là, elle se repent, elle rentre dans le royaume des cieux. Parce que sans naître de nouveau, là, tu peux pas entrer. Mais quand tu t'as fait la prière de repentance, tu viens d'entrer. Là, tes yeux spirituels s'ouvrent. Là, les versets de la parole de Dieu t'éclairent. Tu commences à rentrer dans la vraie connaissance de Dieu. Connaître les principes de la Bible, parce que là, tu continues à y expliquer, puis là, ses yeux vont s'ouvrir, puis elle va réaliser des choses qui est dans un piège du diable. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là qu'elle est délivrée de ses apparitions ou de ses peurs. Pas encore. Elle a juste reçu les outils pour y arriver. On va voir que le fait de commencer à comprendre que là, maintenant, elle est devenue un enfant de Dieu, puis qu'elle vient de recevoir l'autorité pour résister aux apparitions, c'est ce qu'on voit dans la suite. Ses yeux s'ouvrent, elle va être réceptive à la parole de Dieu. Puis là, la personne va être enseignée par Dieu, parce que son esprit va convaincre cette personne-là que les paroles qu'elle entend, ça vient de Dieu. Son intelligence va commencer à être renouvelée. Elle va commencer à croire ce que Dieu dit dans sa parole. Elle va comprendre les vérités. Elle va comprendre sa position en Jésus. Elle va comprendre les promesses de Dieu. Elle va apprendre à connaître la parole de Dieu, ses promesses et ses armes qu'elle peut utiliser pour être délivrée. Puis c'est ça qu'il faut arriver, frères et sœurs, à réaliser notre position en Jésus. Parce que là, on parle pour quelqu'un qui a besoin de délivrance, mais est-ce que nous autres, on marche dans une pleine foi de réaliser pleinement c'est quoi la position que j'ai en Jésus? Avez-vous la conviction de votre position en Jésus ce matin? Mais si vous ne l'avez pas encore, là, mais il est grandement temps que vous réécoutiez ce message-là puis tous les autres messages pour réaliser que vous êtes des sauvés, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous lui appartenez, vous avez le Saint-Esprit, toutes les promesses de Dieu sont pour vous. Vous êtes des envoyés pour faire des disciples. Puis si tu le réalises, puis tu es convaincu, tu vas être capable de convaincre les autres. Si tu le crées pas, tu le dirais même pas à personne, puis il se passera rien non plus, puis il se passera rien dans votre vie, vous allez vivre une vie qui a eu chaos, au vent, vous allez branler dans le manche tout le temps, comme un roseau agité par les vents, à un moment donné, t'entends quelque chose, t'en vas à gauche, t'entends d'autres choses, t'en vas à droite. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est fermeté, conviction, assurance, tu sais ce que tu t'en vas, puis tu fais ce que tu as à faire. Moi, quand je t'ai engagé puis je chauffais les autobus dans la semaine, je sais que j'ai à faire. Si après 3 ans de conduire les autobus, je ne sais pas encore c'est quoi ma run, puis je ne sais pas encore comment démarrer un autobus, il y a un problème, là, puis si j'ai pas compris comment faire l'inspection, puis j'ai pas compris, il y a un problème, c'est pas normal. Faut que je me remette à lire le manuel d'instruction pour comprendre c'est quoi, puis vérifier mon inspection avant le départ, puis de démarrer l'autobus, puis de tout vérifier, puis après ça, aller faire ma run que je sais que j'ai à faire, puis je sais où ce que j'ai à aller. Mon boss, il y a d'autres chauffeurs pour les autres chemins, puis les autres runs. Moi, je dois apprendre la mienne, puis faire la mienne. Mais dans le Seigneur, c'est la même affaire. Vous avez chacun de quoi à faire pour Dieu. Vous devez avoir une conviction que Dieu vous a appelé puis vous a équipé pour faire ce que vous avez à faire. Puis si vous savez que vous avez à faire, vous allez être capable de le faire. Puis quand vous allez être capable de transmettre ce que vous savez, puis l'autre personne va comprendre, puis là, il va se passer de quoi dans sa vie. Suite après, quand il arrive à la connaissance de la vérité, il commence à saisir la vérité, ça dit, il va être revenu à leur bon sens. Je peux monter à chaque phrase que je dis dans l'espérance de la repentance, plus loin, là il apprend sa repentance, après ça, arrivé à la connaissance de la vérité, après ça, tu reviens à ton bon sens. C'est que là, quand tu commences à comprendre la vérité, tout se replace dans ta tête. Là, tu reviens dans le bon sens. Dans le vrai sens que Dieu a créé. Parce que dans la vie, là, il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Ben, faut que quand tu rentres dans le bon sens et que tu comprends les lois spirituelles, là, tu sais comment ça marche, tu sais comment arriver à délivrer une personne. Mais la personne que tu vas y partager, elle aussi, elle va comprendre la vérité, puis là, elle va revenir dans son bon sens. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Elle va discerner, elle aussi, le monde spirituel. Elle va discerner que sa matante ou sa grand-mère qui y apparaît, c'est pas sa grand-mère. C'est un esprit trompeur qui se fait passer pour sa grand-mère, pour essayer de la rendre captif aux esprits, aux visions, puis être attentif à ces apparitions-là, puis de commencer même à prier ces esprits-là. Mais là, tu comprends le bon sens, tu dis, wow, là, c'est pas ma grand-mère qui est là, parce que la Bible me le dit que les morts peuvent plus intervenir. Donc, c'est un esprit qui m'apparaît, puis cet esprit-là, c'est un danger pour moi, puis je dois pas le laisser faire. Tu reviens à ton bon sens, là, tu veux suivre Jésus, puis tu vas apprendre à combattre contre ces esprits-là. Ça dit dans le verset, revenu dans le bon sens, l'autre après, ça dit, elle va se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Quand elle commence à comprendre là, les vraies affaires, elle va se dégager des pièges. Cette apparition-là, mais qu'elle arrive chez eux, là, là, elle va la revoir, puis elle va dire, « Arrière de moi, Satan, je te commande dans le nom de Jésus de t'en aller, je ne veux plus rien savoir de toi, je t'interdis de revenir dans ma maison. » Là, elle commence à résister au diable. Elle commence, parce qu'elle est revenue dans le bon sens, à comprendre la vérité, puis elle est même changée de camp, elle est équipée de toutes les armes puis l'autorité de Dieu, puis là, elle va chasser le mauvais esprit. Peut-être que ça se peut qu'elle vous demande de l'aide, mais au moins, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Faut qu'elle fasse le ménage de toutes ces attaques-là puis ces oppressions-là. Ça soit des attaques à l'intérieur d'elle, parce qu'il y en a qui sont en dedans que ça se passe, puis il y en a qui c'est des visions extérieures. Il y en a qui sont en dedans, ils ont des angoisses tout le temps, des peurs, puis tout ça. Tu peux être délivré de tes peurs. Tu peux être délivré de tes angoisses que l'ennemi te fait. Tu peux être délivré de tes oppressions. Tu peux être délivré. Même un chrétien de longue date peut vivre des oppressions et des angoisses par un esprit qui l'attaque. Puis si on ne réalise pas que c'est un esprit, on ne prend pas autorité. On se tient ses pelules, puis on respire cet esprit-là. Puis là, il faut réaliser, puis là, dire, wow, ça fait là, les peurs, les angoisses, ça. Dans le nom de Jésus, je te commande de me lâcher, puis de t'en aller. Puis là, tu t'invoques le nom du Seigneur, puis c'est sûr que ça va s'en aller. Puis tu vas prier puis jeûner s'il faut, puis ça va sortir. Puis allez pas penser que ça sort pas, là. Ça, c'est un mensonge du diable. Ils sont obligés. Puis s'ils résistent, puis ils sont pas, mais Dieu va envoyer une légion, aller le chercher, une légion de ses anges, puis ils vont combattre avec vous. Puis il dit, puis même si l'ennemi viendra avec sa gang, il dit quand même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On s'en fout que ce soit un ou plusieurs. Nous autres, on a le plus fort sur notre bord. Puis c'est Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur. Puis il y a plus d'anges de Dieu avec Dieu que de démons. Il y a le double. Et on n'a pas à avoir crainte des esprits, ni crainte des hommes. C'est de Dieu qu'on doit avoir la crainte, point. Là, la personne là, va résister, parce que là, elle va se dégager des pièges du diable. Ça dit qu'elle va se dégager, ils se dégageront. Une fois que la personne, elle l'a reçu, puis elle a compris, puis elle est revenue dans son bon sens parce qu'elle connaît la vérité, elle va elle-même commencer à combattre contre ces esprits-là. Puis c'est là qu'elle va avoir la délivrance. Elle va aller voir les pièges que le diable la tient captifs. On a tous des pièges différents. Tout dépendant de nos faiblesses, tout dépendant de nos désirs, nos tentations, tout dépendant de... Il y en a qui l'aimaient tellement, le grand-main, que quand ils l'ont vu apparaître, ils aimaient ça. Là, c'était un manque dans leur vie de la présence de le grand-main. Fait que le mauvais esprit, il sait, puis il continue à apparaître en forme de sa grand-main pour essayer de garder un lien sur sa vie. Mais quand tu réalises qu'en Jésus, là, tu peux avoir la délivrance de tout ça, là, tu brises ça. Tu brises, tu demandes à Dieu d'être purifié par le sang de Jésus quand tu comprends. Tu brises les liens par l'autorité, tu confesses le nom de Jésus, puis le sang de Jésus, puis là, les versets de la parole de Dieu, tu t'en sers, puis il deviendra libre de ses liens. Ça dit dans le verset, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Les personnes vont avoir une délivrance complète, pas juste une partielle, une complète. C'est ça que j'étais le but du message. Arriver à amener les gens d'une délivrance complète. Puis le dernier petit passage, c'est ça qui est aussi bon que les autres. Là. Je dis pas qu'il est meilleur, je dis qu'il est aussi bon que les autres. Il va se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça veut dire que quand le diable me tient captif dans des pièges, il est en train de me soumettre à sa volonté, pas à la volonté de Dieu. Je suis soumis à la volonté du diable. Le diable, il a une volonté de te contrôler. Puis même quand tu es chrétien, il va essayer de te contrôler. Mais tu dois te dégager, parce que là, tu as compris comment ça marche, tu commences à prendre autorité. Puis là, tu te dégages des pièges, puis de son emprise qu'il y a sur toi, de te soumettre à sa volonté, là, tu acceptes, toi, tu as décidé de te soumettre, pas à ta volonté, mais à la volonté de Dieu. La personne qui va avoir une délivrance, là, complète, elle va résister au diable, se dégager des pièges, puis elle va commencer à vouloir se soumettre à Dieu. C'est ça que ça dit. Elle se soumettra. Elle va être dégagée de ce que le diable la tient assujettie. Puis là, après ça, elle va dépendre de Dieu, puis compter sur son intervention. Elle va croire et voir ce qui se voit pas. Elle va marcher avec Dieu. Puis elle va grandir dans le Seigneur. Puis elle va marcher avec une assurance. C'est à cela qu'on est appelé, frères et sœurs. Tiens, on mène à cela? Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus. Je te remercie pour ta parole que tu nous as enseignée, Seigneur. Ça fait du bien pour nous remonter, pour nous équiper, pour nous donner de l'assurance, puis de voir clair dans ce que tu nous appelles. On veut rejeter toutes les fausses idées qu'on a apprises sur la délivrance, Seigneur. Puis on veut se concentrer sur la vraie méthode que Paul enseignait à Timothée. Puis il faut que les gens viennent à repentance, puis qu'ils comprennent la vérité, puis qu'ils se délivrent. On veut que les gens qui nous entourent soient délivrés, que ce soit nos parents, nos amis, nos compagnons de travail, ceux qui nous entourent, on veut qu'ils connaissent la vérité, puis qu'ils expérimentent la vérité, puis qu'ils marchent qu'ils arrivent à vivre dans un désir de vouloir se soumettre à ta volonté, à toi, Seigneur. Fait qu'on remet nos ventres à tes mains, utilise-nous comme tu le voudras, dans le nom de Jésus. Amen.